SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French.
À la une de l'actualité de ce jeudi 18 avril 2024, Marie Emmanuel, l'évêque victime d'une attaque terroriste dans son église et pendant l'un de ses prêches lundi soir, a pris la parole aujourd'hui et fait savoir qu'il pardonnait son geste à son agresseur. À Bondi Junction, une veillée à la bougie se tiendra ce soir au centre commercial Westfield pour rendre hommage aux 6 victimes de cette attaque. Et puis, à Bruxelles, le Conseil européen a adopté de nouvelles sanctions contre l'Iran, une décision qui intervient après l'offensive de Téhéran sur Israël au cours du week-end. Marie Emmanuel, c'est le nom de l'évêque d'une église orthodoxe assyrienne qui a été la cible lundi soir d'une attaque au couteau, une attaque qualifiée de terroriste par la police australienne. Il n'a été blessé au final que légèrement lors de cet assaut, il semble s'être remis. Et aujourd'hui, pour la première fois, il a pris la parole publiquement depuis cette agression. Il a fait savoir qu'il pardonnait son assaillant, tout comme d'ailleurs son ou ses potentiels commanditaires. Je vous propose d'écouter un extrait du message audio qu'il a publié ce matin sur le site de son église.
I forgive whoever has done this act. And I say to him, you're my son, I love you, and I will always pray for you. And whoever sent you to do this, I forgive them as well. In Jesus' mighty name. I have nothing in my heart but love for everyone. Whether that person is a Christian or not, that's totally beside the point. The Lord Jesus always taught us to love one another.
Et le centre commercial Westfield à Bondi Junction rouvre ses portes aujourd'hui au public, mais seulement dans le cadre d'un hommage aux 6 victimes de l'attaque au couteau perpétrée samedi par un homme atteint de troubles psychiatriques. Une veillée à la bougie est ainsi prévue à 17h30 aujourd'hui. Le Premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, Chris Minns, appelle la population à se rassembler pour ce moment de deuil collectif.
We encourage members of the public to come along to that vigil, perhaps not to bring flowers, but to bring a candle, to show some community solidarity and send a massive message to the 6 families who've lost loved ones that we're thinking of them, we care for them and we want them to get through this together.
Et après l'avoir offerte au jeune Français qui s'est opposé à l'assaillant samedi dernier, le gouvernement a annoncé qu'un vigile blessé pendant l'attaque pourra lui aussi obtenir, s'il le souhaite, la résidence permanente. À Canberra, Richard Marles a présenté hier sa stratégie nationale de défense, un document qui fixe le cap et les ambitions des forces armées australiennes pour la décennie à venir. Il a ainsi annoncé plus de 50 milliards de dollars de dépenses supplémentaires au cours des 10 prochaines années, ce qui devrait porter d'ici à 2034 le budget australien de la défense à 2,4% du PIB. L'idée, c'est de renforcer les capacités militaires de l'Australie suffisamment pour contrer l'influence grandissante de la Chine dans la région Indo-Pacifique, mais aussi à se prémunir de toute forme de coercition. C'est l'idée qui sous-tend ce projet, comme l'a souligné donc Richard Marles, le ministre de la Défense.
In our region, what we are witnessing is the biggest conventional military build-up that we've seen since the end of the Second World War, and that is China, which is undertaking that. That's an inescapable fact. And that is changing the strategic landscape, not just for Australia, but for all the countries of the region and indeed the world.
Et malgré un contexte géopolitique tendu, Richard Marles a ajouté que la perspective d'une invasion de l'Australie était peu probable. Il a toutefois précisé à ce sujet qu'elle était peu probable car pas nécessaire. En effet, un ennemi pourrait parfaitement causer des dommages aussi lourds qu'une invasion terrestre en perturbant par exemple les voies commerciales empruntées par les navires australiens. Pour donner un exemple, les réserves de carburant de l'Australie, si elles étaient interrompues, ne lui permettraient de tenir que 24 jours. En Europe, un nouveau train de sanctions adopté contre l'Iran. Après l'offensive menée par Téhéran contre Israël au cours du week-end, le Conseil européen a effectivement annoncé hier de nouvelles sanctions, des sanctions ciblant notamment la production de missiles et de drones. Les dirigeants européens étaient réunis à Bruxelles théoriquement pour parler d'économie, mais ce sujet s'est donc invité dans la conversation. Décryptage par l'envoyé spécial de RFI à Bruxelles, Julien Chavanne.
L'idée était dans l'air dès les premières heures de la riposte iranienne. Elle est en train de prendre forme. Dans la foulée des États-Unis, l'Union européenne prépare un nouveau train de sanctions contre l'Iran. À leur arrivée ici à Bruxelles, les dirigeants des 27 qui ont parlé à la presse étaient tous sur la même ligne. Alexandre De Croo est le Premier ministre de la Belgique.
On va chercher à prendre des sanctions. De mon point de vue, sanctionner le régime des gardiens de la Révolution, c'est quelque chose que la Belgique va soutenir. Je pense que c'est un signal important à envoyer.
Des personnalités du régime seront visées, mais aussi ceux qui aident à faire des missiles, des drones qui ont été utilisés lors de l'attaque, d'après le président français Emmanuel Macron. Dans le même temps, les Européens veulent faire baisser les tensions dans la région avec un maître mot, désescalade, à l'image du Premier ministre irlandais Simon Harris.
Je pense que la position de l'UE est claire. On doit se concentrer sur une désescalade. Toutes les parties engagées doivent faire preuve de retenue parce que s'il n'y a pas de désescalade ni de retenue, ce serait alors une catastrophe.
Encore faut-il avoir les moyens de peser sur Israël ou sur l'Iran. Jusqu'à présent, Benjamin Netanyahou a ignoré les appels au cessez-le-feu à Gaza des Européens et Téhéran a toujours su contourner les sanctions de l'UE. Julien Chavanne, Bruxelles, RFI.
En Chine, l'employé d'un constructeur automobile a été licencié pour avoir acheté une voiture électrique chez un concurrent. En l'occurrence, il avait porté son dévolu sur le modèle produit par la marque Xiaomi, la dernière à faire son entrée sur ce marché devenu hyper concurrentiel des voitures électriques en Chine. Les précisions de Stéphane Lagarde pour RFI.
La vidéo publiée le 15 avril dernier sur TikTok a fait le buzz, comme lors des interrogatoires de police. On y voit un individu de dos portant des feuilles A4 avec notamment la mention SU7, le nom du dernier modèle de Xiaomi, le géant chinois de la téléphonie qui a rejoint récemment la longue liste des plus de 200 constructeurs de voitures électriques que compte la Chine. Le blogueur en question dit d'ailleurs avoir travaillé pour l'un d'eux, JUE Motors, une entreprise, dit-il, qui ne marche plus très fort, avant de préciser dans un autre clip qu'il a été licencié sans raison 5 jours après s'être acheté un SU7. Partagé, liké, cette histoire a suscité une avalanche de commentaires sur les réseaux. Ce mercredi, JUE Motors a répondu dans un communiqué que le blogueur en question était surtout un ancien responsable des relations publiques du groupe et qu'il avait été licencié non pas pour avoir acheté la voiture du concurrent, mais pour en avoir fait la publicité et qu'il avait récemment brillé par ses absences au travail. Une histoire qui a réveillé aussi de nombreuses critiques contre la clause de non-concurrence imposée aux salariés de nombreuses entreprises en Chine, notamment dans le secteur du e-commerce, la clause empêchant les employés de travailler pour la concurrence, même après avoir quitté leur emploi. Stéphane Lagarde, Pékin RFI.
Après des pannes et des incidents à répétition qui ont sérieusement entamé la réputation de l'avionneur américain Boeing, l'entreprise est de nouveau confrontée à des accusations graves. Elles viennent cette fois-ci d'un ingénieur qui travaille pour Boeing depuis plus de 40 ans. Il a témoigné devant le Congrès américain et affirmé qu'il avait été menacé physiquement par des cadres après avoir signalé de graves problèmes de sécurité sur deux des plus gros modèles produits par Boeing, le 777 et le 787. Écoutez Sam Salépour, c'est donc l'ingénieur qui a fait ces révélations.
I literally saw people jumping on the pieces of the airplane to get them to align. I call it the Tarzan effect, among other improper methods. Again, I raised concerns internally. I was sidelined. I was told to shut up. I received physical threats. My boss said, I would have killed someone who said what you said in a meeting.
Et précisons que Boeing, pour sa part, a démenti fermement ces accusations, tout en refusant de témoigner devant le Congrès américain. Direction maintenant la France, puisque à 100 jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, les autorités françaises sont accusées par certains de faire du nettoyage social. C'est en tout cas la question que posent certains après l'expulsion hier des occupants du plus grand squat de la région parisienne. 450 personnes ont ainsi été délogées dans le calme hier matin. Ils occupaient depuis 3 ans un ancien immeuble de bureau situé à Vitry-sur-Seine. Le reportage de Marie Casadebé pour Radio France Internationale.
Descartes quitte les lieux au compte-gouttes. Celui-ci prend la direction de Bordeaux. Beaucoup d'occupants se sont ainsi vus proposer un hébergement dans un SAS régional. 3 semaines, le temps de l'examen de leur situation. Un petit groupe de réfugiés érythréens sort à pied. Ils viennent de refuser de quitter Paris. Une fillette pousse son petit vélo. Sa mère et sa tante traînent des valises. Elles vivaient ici depuis 3 ans. Ils m'ont dit d'aller à Bordeaux, mais moi je travaille ici. Moi, je suis une formation. Il faudrait que j'arrête l'école pour aller dans un endroit que je ne connais même pas. Je suis déprimée, je ne sais pas ce que je vais faire, où je vais aller. À côté d'elle, sa fille de 6 ans ne réalise pas.
Tu sais où est-ce que tu vas dormir ce soir ?
Dans une nouvelle maison.
Sa mère éclate en sanglots. Selon une association présente lors de l'expulsion, les hébergements parisiens sont réservés aux personnes qui ont un contrat de travail d'au moins 6 mois. Pour d'autres, comme pour cet Ivoirien et sa fille, ce sera l'hôtel pour quelques nuits peut-être.
Dieu merci, on nous a logés là-bas.
J'ai eu un petit peu peur. Moi, je vais à l'école, je ne veux pas rester dans la rue comme ça. Et ce squat, ça me manque. Hein. On joue bien dans ce squat.
Aucun délai n'a été précisé à son père, mais il repart rassuré. Il ne dormira pas dehors avec sa fille.
Et toujours sur le même sujet, hier, Île-de-France Mobilité, l'autorité en charge des transports en région parisienne, a lancé son forfait spécial JO destiné principalement aux touristes et aux spectateurs. Alors comment ça marche ? On fait le point avec Victor Castamarino pour RFI.
16 euros par jour pour se déplacer en illimité dans Paris et en Île-de-France, y compris vers les aéroports d'Orly et de Roissy-Charles-de-Gaulle. Les touristes et spectateurs des JO peuvent dès à présent commander en ligne le Pass Paris 2024. Il sera valable du 20 juillet au 8 septembre prochain. Le tarif sera dégressif, un pass 7 jours coûtera ainsi 70 euros. Pour le ticket à l'unité, il faudra compter 4 euros contre 2,10 euros actuellement, comme annoncé il y a quelques mois par la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Une hausse des tarifs justifiée selon elle par l'augmentation de la fréquence des lignes durant les Jeux, mais aussi pour inciter les Français à anticiper et éviter les files d'attente interminables au guichet. Le prix des abonnements pour les habitants de Paris et de sa région, eux, resteront inchangés.
Et on jette maintenant un œil à la météo de ce jeudi en Australie. Soleil et 32 degrés à Perth, 19 degrés à Adélaïde où le temps en revanche est nuageux, 17 degrés et quelques averses attendues aujourd'hui à Melbourne, idem à Sydney où il fera jusqu'à 24 degrés aujourd'hui, 28 degrés attendus à Brisbane et jusqu'à 34 à Darwin où le temps sera également à l'orage aujourd'hui.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.